La saison est arrivée. Le temps est venu pour les obligations d'épargne du Canada de vous présenter cette balado-diffusion.
Les années-lumière, édition du 1er novembre 2009. Nous avons reculé nos montres d'une heure la nuit dernière et nous vous proposons une spéciale de deux heures sur le temps. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition spéciale, spéciale temps, avec des reportages de mes collègues journalistes et avec des analyses et des commentaires de mes deux invités en studio. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Mais pour commencer, on va parler des reportages. Gaëlle, Lucia Berdou, vous êtes remontés loin dans le temps pour explorer comment les humains se sont, de tout temps, préoccupés du temps.
Yannick, je vous emmène plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années en arrière, à l'époque où on découvrait que les astres marquent le temps.
Chantal de Srivastava, les humains ont voulu, ou ils ont dû, ou ils ont eu envie de mieux mesurer le temps, et ils l'ont fait avec des machines de plus en plus précises.
Et pour les aider, Yannick, ils ont appelé en renfort la matière, du cristal de quartz jusqu'à l'atome.
Et ça, ce sera pour la première heure de notre émission. Donc, mais en deuxième heure, nous nous demanderons pourquoi diable nous perdons tant de temps à changer l'heure deux fois par année, Sophie-André Blondin.
Y a-t-il vraiment des avantages, des économies d'énergie à faire? Pas sûr.
Pas sûr, pas sûr. Nous prendrons ensuite un certain temps avec mes invités en studio pour réfléchir sur la nature du temps qui passe sans vraiment passer apparemment. Puis nous irons voir ce que la biologie et la médecine disent et font du temps. Hugues de Roussan.
Oui, Yannick, le corps humain possède une horloge interne qui rythme certains cycles biologiques, comme le sommeil, mais il semble bien qu'il n'y a pas de chronomètre pour percevoir avec exactitude le temps qui passe.
Et le dernier reportage, puisque c'est tout le temps dont nous disposerons, ce sera vous qui nous le présenterez, Sophie André.
Tout ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas sur la science attosecondes, la science qui fouille l'intimité de la matière avec le temps.
En attendant donc, dans deux instants ou trois, mes invités. Donc, mes invités en studio, deux invités en studio qui vont rester avec nous tout au long de cette émission spéciale. L'un d'eux est à Paris et il s'appelle Étienne Klein. Bonjour, monsieur Klein.
Bonjour à vous.
Étienne Klein, donc, qui est physicien, philosophe, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, le commissariat à l'énergie atomique français, auteur de plusieurs livres, dont « Les tactiques de Chronos ». Chronos, c'est le dieu du temps. Et aussi « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois ». Je pourrais donc vous appeler monsieur temps, monsieur Klein?
Ah ben non, parce que si vous le faites, ça suppose que je sais de répondre à toutes vos questions, ce qui est loin d'être acquis.
Alors mon autre invité en studio est ici à Montréal, il s'appelle Serge Bouchard. Bonjour Serge.
Bonjour Yannick.
Donc anthropologue, animateur d'émissions à la radio de Radio-Canada, dont une série qui porte sur une facette du temps, le passé, avec vos illustres oubliés, hein, Serge.
Oui, les remarquables oubliés.
Les remarquables oubliés.
Essayez de rattraper le temps passé. Mission impossible.
Oui, Étienne Klein, donc comme philosophe, comme physicien, est-ce que vous avez la même conception que l'homme de la rue de cette chose que personne n'a jamais vue, mais dont tout le monde sait et sent qu'elle existe, et cela tout le temps?
Bon, je pense que j'ai un rapport au temps qui est le même que tout un chacun. Simplement, mon métier m'a obligé à reposer des questions à propos du temps, et notamment à interroger notre façon de le dire. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, depuis la nuit des temps, on mesure les durées. Et on parle du temps, et il me semble que la langue n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que nous en parlons comme nous en parlions déjà avant Galilée, qui est le physicien qui, pour la première fois, a introduit le paramètre T, le temps, dans une équation de physique. Et donc, on peut se demander si les évolutions de la physique, et même les révolutions de la physique, ont été vraiment prises en compte par notre façon de dire le temps.
Il se peut que
nous le disions mal. Et si nous le disons mal, il y a des chances que nous le pensions mal.
Vous dites que l'image du temps qui passe là est comme un fleuve qui s'écoule. Là, c'est pas une bonne image.
Disons que c'est une image intéressante. D'ailleurs, elle a irrigué le langage. Hein, quand on dit que le temps coule, c'est une directe référence au temps. Simplement, cette image a tendance à faire que nous attribuons au temps les propriétés qu'ont les fleuves, de façon subreptice. Et à l'examen, on se rend compte que le temps n'a pas beaucoup de propriétés qu'ont les fleuves. Alors, on dit que le temps passe de plus en plus vite, donc il a une vitesse.
Oui.
Et ça, c'est une idée qui vient directement de la métaphore du fleuve. Un fleuve a effectivement une vitesse. Mais une vitesse du temps, on voit que c'est déjà plus compliqué parce qu'une vitesse, ça se définit justement par rapport au temps.
Donc,
la vitesse du temps, ça voudrait dire que le temps décale par rapport à lui-même sa façon de s'écouler. C'est une sorte de tautologie qui est difficile à,
embêtante.
À concevoir.
Je me tourne vers Serge Bouchard. Donc Serge, comme anthropologue, ce que j'appelle la conception commune du temps, elle n'est pas si commune que ça. Ce n'est pas tout le monde, toutes les civilisations, toutes les cultures qui ont la même vision du temps, non?
Oui, mais ça peut varier. Mais il est vrai que la pensée métaphorique et la voie royale dans la tradition pour en arriver à saisir des réalités complexes. Alors, c'est intéressant, le fleuve, dans bien des cultures, bien des civilisations, devient l'image du temps qui passe. Et on voit l'être solitaire ou l'être qui est angoissé, qui sent bien le temps qui passe, il va être seul, il va regarder l'eau qui file. Un peu comme l'eau, c'est quelque chose qui nous file entre... On ne peut pas le saisir,
oui.
On ne peut pas le retenir dans nos mains.
Bien sûr.
Temps nous échappe. Et il est vrai, M. Klein le souligne, que nous n'avons pas le langage approprié. Nous avons la vieille langue, les vieilles langues, dans toutes les langues du monde d'ailleurs, la vieille pensée traditionnelle.
On va le voir tout au long de cette émission, comment définir le temps. Et on va maintenant écouter, si vous voulez bien tous les deux, on va écouter le premier reportage de cette émission. C'est un reportage de Gaëlle Lucia Berdou, qui a délaissé sa montre au quartz et son BlackBerry donneur d'heures par satellite. Elle est très moderne, Gaëlle, pour retourner aux origines anciennes, mais aussi plus récentes, de la perception et de la mesure du temps.
La plaine de Salisbury, en Angleterre, à l'aube du 21 juin dernier. Comme chaque année, des milliers de fêtards sont réunis pour le solstice d'été. Au pied des énormes blocs de pierre de Stonehenge, musiciens et touristes se mêlent à quelques adeptes du druidisme pour célébrer l'apparition du soleil.
Stonehenge a toujours fait rêver. Et c'est vrai que ce monument est intriguant. Mais il y a aussi bien des légendes qui circulent autour. Et ça a dû donner un peu du piment à la curiosité.
Jean-Pierre Mohen, du Musée de l'Homme à Paris, est spécialiste des mégalithes, ces grandes structures de pierre que des gens ont érigées un peu partout sur la Terre il y a plusieurs milliers d'années. On croit aujourd'hui que Stonehenge a servi de lieu sacré, mais aussi d'observatoire astronomique. Au solstice d'été, du centre de cette structure en forme de fer à cheval, on pouvait voir au loin, pile entre deux pierres, le soleil poindre à l'horizon. Une prouesse réalisée il y a plus de 2000 ans. Ce lieu mythique fascine toujours autant, et ce n'est pas le seul. Plusieurs de ces mégalithes, érigés avant notre ère, présentent une orientation géographique intimement liée à des phénomènes célestes. Pour Jean-Pierre Mohen, c'est l'éveil de l'humanité à la mesure du temps.
L'art préhistorique ancien du paléolithique, c'est-à-dire vers Lascaux, par exemple, vers 14 000 ans, mais même avant, jusque 30 000 ans, c'était à l'intérieur de grottes. C'était dans un monde fermé. Et les mégalithes, ces grands monuments mégalithiques, sont au contraire des constructions qui sont donc de la fin de la préhistoire, mais qui s'étalent quand même sur plusieurs millénaires, et qui sont des constructions aériennes. Et cette période est caractérisée par l'appréhension du monde céleste. Les hommes préhistoriques anciens étaient plus proches de la Terre, ils se réfugiaient dans des grottes, et puis d'un seul coup, avec le néolithique, le début de la sédentarisation et le début aussi de la maîtrise, disons, de l'espace, eh bien le ciel devient quelque chose d'important, et on pense que ce ciel a été aussi utilisé pour les premières grandes chronologie, le soleil par exemple, formant une sorte de chronomètre tous les ans revenant à la même place. Et on devine pourquoi ? Parce que pour l'agriculture, il y a des rythmes, il y a forcément à être attentif, disons, aux événements qui vont se reproduire. Et là, ce sont des événements célestes.
Tandis que les astres deviennent des repères temporels, ceux qui tentent de mesurer le temps cherchent aussi à définir ce flux insaisissable, comme en témoigne le professeur de philosophie à l'Université Laval, Thomas de Coninck.
Il y a un texte très classique de saint Augustin au livre 11 des Confessions qui commence en disant « Qu'est-ce que le temps ? Je sais ce que c'est que le temps, comme tout le monde, jusqu'à ce qu'on me demande de me dire ce que c'est que le temps. Et quand on me le demande, là, je ne le sais plus. » Le paradoxe, c'est que nous sommes tellement pris par le temps, enveloppés dans le temps, et en même temps, il est composé en apparence d'inexistants. Le passé n'est plus. L'avenir n'est pas encore, et le présent, le maintenant, est toujours autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, qui semble être composée d'inexistants, et que nous pouvons par ailleurs aussi mesurer ? Il y a un étonnement ici, devant notre condition temporelle, qui invite à la réflexion.
Mesurer à défaut de maîtriser. La connaissance des astres permet peu à peu d'établir des calendriers de plus en plus précis. On détermine les semaines, les mois, les années. Pour les plus courtes périodes, quelques instruments ont fait leur apparition. Par exemple, la clepsydre, sorte de vase dans lequel l'eau s'écoule à une vitesse régulière, un peu comme le sable dans un sablier. Mais il n'y a rien comme le soleil pour dire l'heure qu'il est.
Voici justement un exemple d'un cadran qui a été réalisé en 1998. C'est un cadran vertical.
Les cadrans solaires, c'est la spécialité d'André Bouchard, fondateur de la Commission des cadrans solaires du Québec, un organisme qui tente, entre autres, de recenser ces objets. On en compte maintenant plus de 350, un peu partout dans la province.
En même temps, j'ai toujours trois cadrans qui fonctionnent. Le matin, celui de 6h à 6h.
Dans son jardin montréalais, André Bouchard a fabriqué un cadran solaire peu banal, un cube de pierre posé sur un socle et dont les cinq faces visibles donnent l'heure, plusieurs à la fois, selon le moment de la journée. Un tour de force inspiré d'une technique millénaire.
Un cadran solaire, c'est d'abord ce qu'on appelle une table où il y aura des lignes, des chiffres et un indicateur d'ombre. Quand on connaît la latitude du lieu pour le cadran horizontal, on s'organise pour que l'indicateur ait le même angle horaire que la latitude du lieu. Montréal, c'est facile, c'est 45 degrés et demi à peu près, là. Alors, je fais mon triangle ici sur ma table horizontale, 45 degrés, et je dirige ça vers l'étoile polaire quand je l'oriente, le cadran.
Qu'il faut que la tige qui va faire l'ombre sur le cadran soit dirigée vers le nord, vers l'étoile polaire.
Vers l'étoile polaire, oui. Ça pose un petit problème quand on est dans l'hémisphère sud, mais on fait juste renverser le cadran, puis c'est le même principe. Et là, comme tel, l'art de bien dessiner un cadran, c'est que compte tenu de la table, des chiffres et des lignes qu'on veut y mettre, c'est un exercice de géométrie et de trigonométrie que de calculer l'angle des lignes horaires par rapport à celle de midi.
C'est-à-dire l'espace qu'il faut mettre entre deux lignes pour qu'à 2 heures, il soit 2 heures.
Exactement.
Et quand ça indique 3, et 3 soit 3 heures.
Et puis, c'est pas indifférent, c'est pas les mêmes angles si c'est un cadran horizontal, vertical, ou si c'est un cadran du matin ou d'après-midi.
Le soleil est précis, mais il a ses limites, surtout quand le ciel est nuageux ou qu'il fait nuit. Dès le XIIIe siècle va donc apparaître une nouvelle spécialité, l'horlogerie.
Alors maintenant, on est en train de préparer une petite exposition qui aura lieu dans les prochains jours, au mois de novembre.
Au Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, le conservateur adjoint Jean-Michel Piguet montre sa collection. 50 000 instruments, objets et documents, dont certains remontent au tout début de la discipline.
Alors là, nous sommes devant l'horloge la plus ancienne du musée, qui est une horloge de tour, donc une horloge de clocher, donc qui a la faculté, évidemment, d'indiquer le temps, l'heure à l'époque, parce que sur les cadrans des horloges à cette époque-là, il n'y avait qu'une aiguille, simplement l'aiguille des heures, parce que l'horloge n'était pas assez fiable et précise pour qu'on lui mette une aiguille des minutes. Avec un système, ce qu'on appelle l'échappement, c'est vraiment la partie technique qui a permis de réaliser des horloges. Parce que là, on est à peu près à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. Et puis, on connaissait en fait les autres parties. La roue dentée était déjà connue depuis fort longtemps. Le poids moteur pour entraîner un système aussi. Par contre, l'idée de trouver un système ou un dispositif qui permette de diviser, de fractionner un écoulement régulier, c'est l'échappement qui a été inventé, on ne sait pas trop bien par qui, mais cet échappement qui consiste en une roue dentée qui actionne une tige munie de deux palettes de décrochement qui entraîne alternativement d'un côté et de l'autre un folio, c'est-à-dire un grand balancier horizontal muni de petits poids qu'on peut régler pour régler la fréquence et la vitesse d'oscillation. Ça, c'est vraiment l'horloge de base telle qu'elle existe finalement encore dans les montres mécaniques actuelles, avec une réserve de force motrice, un rouage qui transmet le mouvement à l'échappement et puis un organe régulateur qui permet de diviser le temps.
Les montres, justement, vont naître d'un besoin de miniaturisation. Il faut bien pouvoir transporter le temps sur soi. C'est l'invention du ressort moteur qu'il faut remonter régulièrement pour fournir de l'énergie à l'instrument. Mais montres et horloges manquent toujours cruellement de précision. Au mieux, elles décalent de plusieurs minutes par jour. Mais plus pour longtemps. Au milieu du XVIIe siècle, Christian Huygens invente l'horloge à pendule. Une idée inspirée par un grand personnage de l'astronomie, raconte Jean-Michel Piguet.
On raconte que c'est Galilée qui, dans la cathédrale de Pise, lors d'un office religieux, a observé le mouvement d'un lustre qui se balançait avec un courant d'air simplement, certainement, et puis qui en a déduit l'idée qu'on pourrait utiliser ce mouvement comme mouvement régulateur pour régler le temps, en fait, pour diviser le temps. Alors Galilée, il a émis l'idée, il a écrit quelques notes sur cette idée-là, il n'a pas eu le temps de construire une horloge. Son fils a construit une horloge à pendule, selon les idées de Galilée. Et puis c'est Huygens qui a vraiment mis au point la réflexion théorique et qui a établi les bases théoriques de l'utilisation du pendule.
Venite, venite, par ici. Venez voir la Lune comme vous ne l'avez jamais vue auparavant.
En cette année mondiale de l'astronomie, Galilée est à l'honneur au Planétarium de Montréal. À l'époque où le commerce maritime prenait de plus en plus d'ampleur, ses observations astronomiques et celles de bien d'autres ont aidé les marins à trouver leur chemin à la surface des mers. Mais comme le rappelle l'astronome Pierre Chastenet, une mesure encore plus précise du temps devenait essentielle pour ces navigateurs.
Pour savoir où vous êtes à la surface du globe, vous avez besoin de connaître votre position par rapport à l'équateur, ce qu'on appelle la latitude, et vous avez besoin de connaître votre position à l'est ou à l'ouest d'une ligne de référence, qui peut être n'importe quelle ligne, mais qui, dans le cas de la Terre, est devenue le méridien de Greenwich. Or, pour mesurer votre latitude, c'est-à-dire votre hauteur par rapport à l'équateur, dans l'hémisphère nord en particulier, c'est relativement simple. Vous visez l'étoile polaire et vous mesurez l'angle entre l'horizon local et l'étoile polaire. Et ça vous donne directement votre latitude. Dans le cas de la longitude, c'est pas aussi simple. Parce que puisque la Terre tourne sur elle-même et qu'elle vous entraîne, les étoiles défilent de l'est vers l'ouest, comme le Soleil et la Lune. La seule façon de savoir où est-ce que vous êtes en longitude à la surface du globe, c'est de savoir, par exemple, prenons une étoile alpha, c'est de savoir à quel moment est-ce que cette étoile alpha est passée au méridien de votre lieu de référence, qui, dans le cas de la Terre, est Greenwich. Et à quel moment, donc combien d'heures plus tôt ou plus tard, cette même étoile alpha va passer au méridien du lieu où vous vous trouvez? Or, pour faire cette mesure-là, vous avez besoin de savoir quelle heure il est localement, mais vous avez aussi besoin de savoir quelle heure il est à Greenwich. Ça oblige les marins, les explorateurs, à transporter avec eux le temps de Greenwich, le temps de leur lieu de départ, s'ils sont partis de là, par exemple. Or, transporter le temps, c'est pas facile.
Pas facile, en effet. Au début du 18e siècle, l'Angleterre va lancer un concours pour la fabrication d'un appareil de mesure du temps compact et précis qui résisterait aux roulis et à l'humidité des bateaux. Un défi de taille qui donnera naissance au chronomètre de marine, inventé par l'Anglais John Harrison, d'une précision encore jamais vue. Précision qui permettra d'envisager un temps pour tous, un temps universel.
C'était donc un reportage de Gaëlle Lucia Berdou, un reportage, cher Bouchard, hein, qui ne peut faire autre chose que titiller les neurones de l'anthropologue, hein, quelques secondes.
Pas seulement de l'anthropologue, j'imagine, de tout le monde. Il y avait plein de références là-dedans, mais j'ai retenu quand même l'importance sur notre rapport universel au temps de tout temps et dans tout espace, avec la conscience, l'importance du ciel, donc l'observation du ciel. On ne peut que l'imaginer, parce qu'on n'est pas certain, en anthropologie, en paléontologie, du rapport au paléolithique, du rapport de l'humain. Mais on ne peut qu'imaginer.
Avec son ciel, oui.
Mais le ciel était très présent, et le ciel est la première école de la conscience. Mm-hmm. Et c'est de revoir, puis on le voit en navigation, là, on regarde les étoiles et on commence à mesurer, mais ce qui est observé, c'est un mouvement régulier. Donc, un mouvement, la régularité de certains mouvements.
Et le
d'où
retour,
l'idée du retour.
Du grand retour.
Le premier grand temps humain dans l'histoire universelle de l'Homo sapiens, c'est un temps d'éternel retour. Oui. Tout revient.
Étienne Klein, à Paris, ça doit titiller aussi le philosophe, physicien, le spécialiste du temps, si je peux me permettre, le chronologue. Est-ce que ça existe, ce mot-là, Étienne Klein?
Peut-être, mais je n'en suis pas. Hein. C'est-à-dire, vous avez présenté un reportage absolument fascinant qui montre que la chronométrie est une grosse affaire, mmh, et qui a joué un rôle très important dans la conceptualisation du temps par les modernes, disons. Mais cette question de la chronométrie ne recouvre pas complètement la question du temps. C'est-à-dire, ce qu'on mesure là, ce sont des durées.
Oui.
Et on les mesure par le biais d'une spatialisation, c'est-à-dire que ce soit la montre ou bien le mouvement des étoiles. En fait, on mesure des durées en se repérant à des mouvements réguliers qui servent d'étalons pour transposer la durée en grandeur spatiale.
Voilà. Mmh.
Le temps, c'est un peu autre chose. Le temps, c'est ce qui fait qu'il y a des durées.
Le temps engendre la durée,
donc,
hein, vous dites.
Quand on dit qu'on mesure le temps, en fait, on mesure des durées. Et la question du lien entre le temps et la durée est une question assez profonde, en fait. On pourrait dire que le temps, c'est ce qui renouvelle l'instant présent de telle sorte que, par construction, il fabrique ce que nous appelons de la durée. Avec des tas de paradoxes, parce qu'un instant, comme vous le savez, est représenté par un point. Donc un instant a une durée nulle.
Oui.
Et quand vous mettez ensemble des points de durée nulle, vous avez quelque chose qui a une durée qui n'est pas nulle.
Oui, c'est un problème d'un paradoxe de géomètre et de physicien. Et de...
Voilà.
C'est pas évident. Mais...
Donc on voit que la question du temps déborde un peu la question de la chronométrie, même si, évidemment, la chronométrie a joué un rôle capital dans son appréhension.
Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale sur le temps, dont voici le deuxième reportage. Et ce reportage est signé Chantal Srivastava. Il nous amène au temps moderne, à la mesure moderne du temps ou de la durée, car au cours du dernier siècle, des progrès spectaculaires en ingénierie et en physique fondamentale ont révolutionné notre manière de mesurer le temps. C'est toute une épopée.
Donc là, c'est le vieux monument de bâtiment d'observatoire, ça date de Louis XIV.
Nous voici dans le vieux bâtiment principal de l'Observatoire de Paris, en compagnie de l'astronome Jean Souchet.
On va aller dans une salle qu'on appelle la salle Cassini, hein, où se trouve la ligne méridienne, justement.
Nous nous dirigeons vers la célèbre salle Cassini pour découvrir un lieu mythique, le méridien de Paris, qui a longtemps été ici, le centre du monde.
Vous voyez la ligne méridienne ici. Donc c'est une ligne métallique. Nord-sud, et quand il est midi vrai, c'est-à-dire quand le soleil passe au méridien, la lumière solaire passe dans le trou et vient frapper la règle. Donc tous les jours, une fois, quand il fait beau.
Les méridiens divisent la Terre d'un pôle à l'autre, tels les quartiers d'une orange. À la fin du 19e siècle, Sir Sandford Fleming, architecte du chemin de fer canadien-pacifique et membre fondateur de la Société royale du Canada, propose de délimiter des fuseaux horaires basés sur un seul méridien d'origine. Son but, régler un problème bien concret, raconte Jean Souchet.
L'objectif ultime de tout ça, c'était conditionné par le fait que les transports dans des grands territoires comme les États-Unis et le Canada, avec plusieurs fuseaux horaires de nos jours, il y avait un gros problème, c'est-à-dire qu'on partait d'une gare, mettons, dans l'Ohio, avec un temps donné, puis on faisait un très très long trajet, on allait jusqu'à San Francisco, on arrivait sur une autre gare, avec un temps local, et on connaissait pas du tout le décalage qu'il y avait entre ces deux temps-là, qui étaient des temps solaires, en fait, basés sur le mouvement du soleil, mais qui n'étaient pas des nombres entiers d'heures. Il n'y avait pas de fuseau horaire, donc c'était très compliqué. Il fallait tenir compte des différences de longitude pour arriver à comprendre combien de temps durait effectivement le voyage. Donc c'était impossible. Et c'est une des raisons majeures qui ont incité à instaurer ce système de fuseau horaire dans cette fameuse conférence de Washington vers 1880. Et qu'on a décidé que ce serait le méridien de Greenwich qui serait le méridien d'origine. À partir de ça, on a décalé le temps de toutes les horloges sur Terre d'un nombre entier d'heures par rapport à l'heure des Anglais.
Voie 5, entrée de lycéenne pour Vienne, Olten, Zurich, Gare centrale.
La coordination du transport ferroviaire devient certes plus facile grâce au fuseau horaire. Mais les horloges de l'époque qui mesurent encore le temps grâce aux oscillations d'un pendule manquent de stabilité. Le physicien Pierre Thoman, directeur du laboratoire temps fréquence de l'Université de Neuchâtel en Suisse, explique comment on en est venu à faire autrement pour mesurer le temps.
Assez tôt, les ingénieurs et les gens qui fabriquaient des horloges ont cherché à faire des pendules ou l'équivalent d'un pendule qui oscillait de plus en plus vite et où le frottement perturbait au fond le moins possible le mouvement, de telle manière qu'il soit nécessaire d'apporter un minimum d'énergie pour maintenir ce mouvement. Ensuite, la mesure du temps, c'est simplement la mesure du nombre de périodes, le nombre de cycles ou le nombre d'oscillations de ce qu'on appelle le résonateur. Alors une grosse étape, ça a été l'invention de l'horloge à quartz, parce que le quartz est un matériau qui a très peu de frottement à l'intérieur de sa structure. Donc un morceau de quartz peut vibrer très très longtemps avant de s'atténuer. Il peut aussi vibrer très vite. Donc ça permet au fond de subdiviser le temps en intervalles, en périodes beaucoup plus courtes. Et ça c'est un bon moyen d'améliorer la précision des mesures. En fait, le quartz a la propriété d'être piézoélectrique, c'est-à-dire qu'on peut maintenir et détecter les oscillations d'un morceau de quartz par des méthodes purement électriques. Donc le mariage avec la microélectronique était programmé extrêmement fructueux. Dans les années 1950-1960, il y a eu un énorme développement permis par la miniaturisation de l'électronique et qui a permis d'en faire des horloges utilisables même sur le poignet des utilisateurs.
L'avènement du quartz sonne la fin du tic-tac pour les horloges. Ce cristal vibre des dizaines de milliers de fois par seconde. Un mouvement beaucoup trop rapide pour être perçu par l'oreille humaine, mais encore trop lent pour les physiciens. Ils se tournent alors vers l'atome pour mesurer le temps.
Maxwell, au milieu du 19e siècle, a annoncé, même avant que l'existence des atomes soit totalement démontrée expérimentalement, a au fond prédit et annoncé qu'on ferait les meilleures horloges avec des atomes. Donc l'idée est très très ancienne. La réalisation pratique était un petit peu plus difficile parce que les atomes sont très très facilement perturbés par leur contact avec quoi que ce soit d'autre. Ils se déplacent normalement à très grande vitesse lorsqu'ils sont séparés les uns des autres. Donc il y avait tout un effort technologique pour maîtriser au fond le mouvement de ces atomes et les soumettre à l'épreuve du comptage de leurs oscillations. Et cette technologie s'est développée avec toute une branche de la physique qui étudie précisément notamment la physique des atomes, la structure des atomes et des molécules, qui était basée sur ce qu'on appelle des jets moléculaires, des jets atomiques, qui consistaient à envoyer dans un système à vide des jets de particules qui étaient relativement indépendantes et sans interaction mutuelle. Et là-dessus se sont greffés des développements de l'électronique, qui est un sous-produit au fond du développement stratégique du radar pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui permettait au fond de développer des systèmes électroniques qui permettaient de compter des fréquences non pas qui correspondent à celles du quartz, mais de franchir vraiment une étape et de monter aux dizaines de milliards d'oscillations par seconde. Alors les atomes sont des résonateurs d'une richesse incroyable, sont des diapasons, des balanciers, quelle que soit l'image qu'on prend, qui sont multiples et d'une immense richesse. Donc tous les atomes possèdent des résonances qui en principe sont exploitables pour faire des horloges. L'image d'un atome comme un petit balancier qui flotte dans l'espace me plaît beaucoup parce qu'elle résume très bien en fait ce qu'on extrait, ce qu'on utilise dans l'atome pour en faire précisément le balancier d'une horloge. Donc à l'intérieur de la structure de l'atome, il y a des oscillations qui résultent du passage de l'atome entre certains états dans lesquels il préfère se trouver et dans lesquels il se trouve le plus stable, qui correspond à l'orientation mutuelle entre des aimants absolument microscopiques que constituent d'une part le noyau et d'autre part l'électron périphérique dans l'atome. Mais tout ça, c'est assez, je dirais, assez anecdotique. Ce qui est fondamental, c'est que l'atome est capable de résonner comme un diapason, comme une balançoire, comme beaucoup de phénomènes qu'on voit dans la vie de tous les jours. Simplement, ces oscillations sont extraordinairement rapides. Elles sont imperceptibles à nos sens, ce qui les rend un petit peu plus difficiles à maîtriser.
L'atome révolutionne la mesure du temps. Auparavant, la seconde était définie comme une partie du jour terrestre ou comme une partie de l'année. Puis, en 1967, l'atome de césium-133 devient officiellement l'étalon du temps avec ses 9 192 631 770 oscillations qui battent la seconde et nous donnent le temps atomique.
L'heure vous est donnée par le Patek Philippe Muséum de Genève.
Au revoir, il est midi et demi.
Merci Amandine, l'heure du journal de la mi-journée qui vous est présentée par David Racana. Bonjour.
La petite Amandine qui vit en Suisse est bien loin de se douter que si elle peut aujourd'hui nous dire l'heure qu'il est, c'est grâce à un réseau d'environ 300 horloges atomiques réparties de par le monde. Des horloges qui envoient chaque mois leurs données ici au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, en banlieue de Paris, où nous accueille Gérard Petit.
Ici, on a tous nos bureaux, mais on a surtout ce laboratoire qui est un laboratoire comme tous les laboratoires de temps de par le monde, avec quelques horloges atomiques et quelques récepteurs du GPS. Notre raison d'être, c'est de calculer le temps atomique international. Ce temps atomique international, c'est une espèce de moyenne de plusieurs centaines d'horloges atomiques qui sont dans environ 70 laboratoires de temps dans le monde. Alors, donc d'une part, des horloges à césium de type industriel qui tiennent dans un petit rack électronique standard, ou des horloges de type Mazar hydrogène qui sont un peu plus grosses, un peu plus encombrantes, un peu plus précises sur le court terme, mais un peu moins stables sur le long terme. Donc, enfin, les deux se complètent en quelque sorte. Donc avec ces quelques centaines d'horloges atomiques et un algorithme étudié pour, on fait une moyenne qui essaye de tirer le meilleur parti des bonnes horloges et de rejeter celles qui sont moins bonnes. Et ensuite, comme ces horloges industrielles ne sont pas construites pour être parfaitement exactes, on utilise dans un deuxième temps un certain nombre d'horloges de laboratoire hyper précises qui, elles, sont conçues pour réaliser la définition exacte de la seconde, mais qui ne sont présentes que dans quelques laboratoires dans le monde, les plus importants, ceux qui ont les moyens de développer ces horloges, qui s'appellent des fontaines à césium. et dont on a environ 8 ou 9 exemplaires dans le monde qui nous fournissent en quelque sorte la meilleure représentation de la seconde.
Le temps atomique nous donne l'heure avec une précision inouïe. Mais la Terre, elle, continue de tourner à son propre rythme, celui du temps universel. Pour tenir compte de la rotation terrestre, nous avons, au fil des années, ajouté 34 secondes aux horloges atomiques afin de les synchroniser à l'horloge Terre. C'est le temps universel coordonné, appelé aussi UTC.
Je vais vous montrer la durée du jour depuis 1837 jusqu'à nos jours. On va mettre 1997.
C'est ici, à l'Observatoire de Paris, que l'astronome Christian Bizouard et ses collègues décident à quel moment ajouter ces secondes intercalaires.
C'est nous qui décidons, ou plutôt c'est la rotation de la Terre qui décide quand on doit ajouter une seconde. On intercale, plus exactement, une seconde dans le temps atomique qui bat un peu trop vite pour le retarder, en quelque sorte, par rapport au temps de la rotation de la Terre, pour le calmer. Et globalement, sur des échelles de temps d'environ 2 siècles, la Terre ralentit à cause de la perte d'énergie due au frottement entre les océans et puis la Terre solide, la partie solide de la Terre. Une dissipation sous forme de chaleur, une dissipation d'énergie mécanique qui fait que sur des échelles de temps supérieures à 2 siècles, la Terre ralentit.
Pourquoi se donner autant de mal pour mesurer le temps et ne pas tout simplement se fier au temps universel de notre bonne vieille Terre? La réponse du physicien Pierre Thoman du laboratoire Temps-Fréquence de l'Université de Neuchâtel en Suisse.
Alors le temps défini sur la base d'astronomie était, c'est vrai, tout à fait suffisant pour énormément d'applications. Et on peut se demander si ce n'est pas une course absurde vers une perfection inaccessible. Et en fait, cette mesure très précise du temps, elle a toujours été tirée et motivée par des applications. Toutes les télécommunications, en particulier tous les réseaux de téléphones cellulaires et les télécommunications internationales par fibre optique ou par satellite, sont rythmées par des horloges atomiques. Et lorsque l'une ou l'autre de ces horloges a des performances insuffisantes, eh bien ça se traduit par des interruptions de courte durée dans les communications, donc en fait par des pertes d'informations. Actuellement, les horloges se sont tellement perfectionnées qu'elles couvrent largement les besoins des télécommunications, mais il y a un autre moteur, disons, du développement des horloges, c'est la navigation satellitaire. Donc le système GPS est le premier exemple de cette navigation satellitaire. Et tout système de navigation nécessite des horloges. Et la performance du système de navigation dépend dans une large mesure de la qualité des horloges. Toute la précision du système GPS se base sur la vitesse de propagation des signaux émis par les satellites et qui atteignent le récepteur. Et cette vitesse est de 30 cm par milliardième de seconde, ou 300 000 km par seconde. Toute erreur sur la mesure de temps se convertit en erreur dans la localisation affichée par le récepteur. Et ça, le tarif, si vous voulez, c'est 30 cm d'erreur par nanoseconde d'erreur. Alors, en particulier, si l'horloge vous envoie un signal en vous affirmant qu'elle l'a émis à une certaine heure exacte et que cette heure n'est pas l'heure exacte, mais qu'elle est fausse de 10 nanosecondes, par exemple, eh bien, la mesure de la position du récepteur se trouvera entachée d'une erreur de 10 fois 30 cm, donc 3 mètres. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Donc en fait, toutes les horloges doivent être contrôlées essentiellement au niveau du milliardième de seconde.
De nos jours, aucune grandeur physique ne peut être mesurée avec plus de précision que le temps. Et les gardiens du temps n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les horloges de demain seront encore meilleures, ce qui nous forcera peut-être un jour à redéfinir, encore une fois, comment mesurer la seconde et le temps qui passe.
Alors, Alors c'était donc un reportage de Chantal Srivastava qui racontait donc cette grande aventure. Étienne Klein à Paris, une aventure à la fois de la physique, aussi de la technologie, de l'ingénierie. C'est quand même assez fascinant pour un physicien, ces fontaines à césium par exemple, c'est extraordinaire.
Et oui, il faut éviter que les atomes aillent trop vite, comme ça a été dit dans le reportage. S'ils vont trop vite, on a du mal à faire à partir d'eux des horloges
faut
qui
les
soient
calmer,
précises.
Ouais. Mmh.
Non, c'est un reportage fascinant qui montre que tout progrès de la physique fondamentale a des répercussions sur la qualité des mesures, des durées qu'on peut faire ensuite.
Oui, exactement.
Les horloges à césium sont beaucoup plus précises que les horloges atomiques traditionnelles, qui elles-mêmes sont plus précises que les autres systèmes qui ont été présentés. Et donc effectivement, il se peut tout à fait, comme ça a été dit dans le reportage, qu'on en vienne bientôt à changer notre définition de la bonne façon de mesurer la seconde.
Exactement, oui. Et est-ce que ça nous apprend quelque chose de nouveau ou d'autre sur le temps lui-même que ces technologies de pointe ?
Moi, je ne suis pas sûr parce que... Bon, d'abord, il y a dans le reportage une assimilation qui est faite entre la durée et la longueur. Finalement, on dit la durée, c'est au temps ce que la longueur est à l'espace.
Oui.
Et en réalité, il y a une grosse différence, c'est que quand vous avez une longueur d'un mètre devant vous, eh bien, coexistent devant vous tous les points qui composent cette distance de 1 mètre.
Oui.
Par contre, si vous prenez une durée de 1 seconde ou 3 minutes, elle est composée d'instants qui se succèdent et qui ne coexistent jamais tous ensemble.
C'est la nature, la différence entre l'espace
et le
temps.
Voilà, c'est la grosse différence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être présent intégralement à une durée donnée. Vous n'êtes présent qu'à chaque instant qui compose cette durée.
Mais on est obligé par comparaison, au fond, par analogie, pour essayer de saisir cet insaisissable temps.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que il faut se garder de parler de la durée d'une façon trop habituelle ou banale, parce que c'est un concept très mystérieux, la durée.
Mm-hmm.
C'est composé d'entités auxquelles nous ne pouvons pas être simultanément présents. Et donc, quand vous posez la question « qu'est-ce que veut dire 3 minutes ?», ça devient quelque chose de vertigineux. Où est-ce que c'est aujourd'hui plus 3 minutes ou maintenant plus 3 minutes ?
Mm-hmm.
C'est quel point dans le futur ? Qu'est-ce qui m'amène à ce point ?
Ça va être à peu près le moment où on va devoir arrêter l'émission, par exemple. Oui. Je me tourne 2 minutes justement vers l'anthropologue, vers Serge Bouchard. Cette technologie-là, Serge Bouchard, pour vous, est-ce que ça change la façon dont l'humain se situe dans le monde et dans le temps particulièrement ?
Mais il y a quelque chose, quand on entend le reportage, il y a quelque chose d'effrayant, c'est-à-dire d'obsessif, presque une maladie, une folie collective, mesurer. Et on a parlé d'applications dans le reportage,
oui.
On parle d'applications très très récentes dans les télécommunications. Il faut se rappeler que l'horloge, la mesure du temps, c'est aussi la période de développement de l'industrie.
Oui.
De l'organisation, mm-hmm. du travail, d'une sorte de culture universelle qui nous dirait ajustons nos montres, soit à l'heure, soit au rendez-vous, soit précis. Et il y a une morale qui vient. Nous sommes pressés. C'est-à-dire que c'est insidieux.
Nous sommes effectivement très pressés.
Oui, c'est insidieux. On fait de la radio. On fait de la radio, on a toujours le chrono, on regarde le chrono.
Oui.
Mais c'est toute notre vie. Nos mondes sont personnels et nos agendas et tout. Le monde, oui, là-dessus, a changé, puisque traditionnellement, on mesurait moins. Et temps, on était moins obsédé de ce temps, même si on avait conscience et qu'on se situait quelque part dans le temps.
Serge Bouchard, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi Étienne Klein à Paris. On arrête quelques minutes avant la deuxième heure. Je vous invite ce soir à regarder Découverte à 18h30 à la télévision de Radio-Canada. Entre autres, un reportage sur les oies des neiges qui, elles, avec ou sans horloge atomique ou pas, reviennent et repartent tous les ans. Alors après le bulletin de nouvelles, c'est la deuxième partie du magazine scientifique et de la spéciale sur le temps. On va enfin savoir si ça vaut le coup de changer d'heure 2 fois par an. À tout de suite. Les années-lumière, deuxième heure. « Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours et l'équipe pour vous présenter la deuxième partie de cette édition spéciale sur le temps avec des reportages de mes collègues journalistes et les commentaires et analyses de mes deux invités en studio, le physicien et philosophe Étienne Klein à Paris. Étienne Klein qui est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat d'énergie atomique, auteur de plusieurs livres sur le temps. Et puis à Montréal, l'anthropologue Serge Bouchard, animateur d'émissions de radio à notre antenne et auteur aussi de plusieurs livres, dont un magnifique bestiaire du nord de l'Amérique, magnifique, il faut le dire. Dans cette deuxième heure, on va écouter donc les reportages de Sophie-André Blondin sur le changement d'heure et en toute fin d'émission sur matière et temps, et aussi un reportage de Hugues de Roussan sur le temps et le vivant. Et je parlerai plus longuement avec Étienne Klein des tactiques de Cronos et de ce facteur temps qui, dit-il, ne sonne jamais deux fois. Alors, comme on vient de passer de la première à la deuxième heure des années-lumière, on va parler de changement d'heure. C'est pas tout à fait la même chose, je crois. Changement d'heure, ça se fait ici, bien sûr. Ça s'est fait hier soir dans la nuit. Ça se fait aussi en France. Étienne Klein, est-ce que tout le monde est bien content de ça en France ou tout le monde grogne un peu, comme le font souvent les Français?
On est content une fois sur deux. Oui. Quand ça se passe en novembre, on gagne une heure, on est content. Et six mois plus tard, on se dit que c'est une très mauvaise idée.
Mais il faut changer d'heure au printemps pour pouvoir regagner à l'automne.
Oh, mais c'est une opération choisie, elle n'a rien d'obligatoire.
Non, c'est vrai. Serge Bouchard, changer d'heure pour un anthropologue qui vit à l'écoute des cultures autres, ça doit paraître curieux, non?
Bon, oui, mais tout est possible, c'est une convention. Et puis, moi, j'ai jamais été à l'heure, de toute façon. Alors, je me traîne les pieds une heure plus tard, une heure plus tôt, ça revient au même.
Donc, deux fois par année, prêt, pas prêt, ça recommence, on change d'heure. Alors, pourquoi? Voici quelques explications dans ce reportage de Sophie-André Blondin.
Messieurs, vers les 6 heures du matin, je fus réveillé par un bruit au-dessus de ma tête et je fus fort étonné de voir ma chambre très éclairée, mon domestique ayant oublié de fermer mes volets.
Éveillé plus tôt que prévu au lendemain d'une soirée tardive, Benjamin Franklin comprend qu'il a dormi pendant que le soleil était déjà haut dans le ciel. Il suggère dans le courrier des lecteurs du journal de Paris de 1784 qu'il serait plus sage de profiter de cette clarté gaspillée en avançant l'heure, ce qui générerait des économies de chandelles.
Chaque bougie exige une demi-livre de suif et de cire.
Ici, d'ailleurs, on peut attendre.
RC, heure avancée de l'Est, 14h, 1 minute et 30 secondes.
Simon du Rivage, on peut se vanter de l'avoir mis en boîte. Et voici la boîte. C'est cette petite boîte-là qui sert d'horloge parlante.
Au Centre national de recherche du Canada, où nous accueille le physicien Jean-Simon Boulanger, on ne tient pas seulement l'heure juste, on est les gardiens de l'heure officielle du pays.
On a encore quelque chose comme 600 à 700 000 appels par année.
Quand on change l'heure, comme à l'automne maintenant, là, est-ce qu'il y a une recrudescence des appels?
Ah oui, c'est sûr, ça se produit deux fois par année. Nos lignes sont saturées pendant quelques heures et puis ensuite, ça se calme à nouveau. Mais c'est toujours un petit peu mêlant. On se demande, bon, on avance ou on recule, là?
À strictement parler, la réponse n'est pas la même partout au pays. Le choix d'appliquer l'heure avancée relève de l'heure légale. Et l'heure légale, c'est l'affaire des provinces. Au Canada, tout le monde a adopté l'application de l'heure avancée. Enfin, alors, presque tout le monde.
Vous voyez les changements qui ont été faits. Il y a simplement le Saskatchewan qui ne change pas. Puis un petit coin ici.
Il y a comme des petites enclaves différentes entre l'Ontario et le Manitoba.
Ah oui, ça, c'est des enclaves, effectivement, qui étaient dessus. Je crois que c'était des conseils scolaires qui...
qui jouaient. Puis aussi à droite, quand vous cliquez sur quand on change la carte.
Ah, je savais pas que Montréal changeait. Vous reculez d'une heure?
L'avantage, c'est que le matin, il fait plus clair. L'inconvénient, le soir, la noirceur vient plus vite.
J'apprécie pas. Pas du tout. J'estime que mon organisme, il fait exactement comme l'organisme des animaux, il n'apprécie pas.
Est-ce que vous savez pourquoi on nous demande de changer d'heure comme ça?
Non, pas vraiment.
Non, honnêtement, non. On suit la vague.
Je sais qu'il y a des économies d'électricité à faire.
Pour profiter plus longtemps de ces économies d'énergie, les États-Unis ont milité pour un allongement de la période d'application de leur avancée. Depuis 2007, le Canada a emboîté le pas et leur avancée dure 3 semaines de plus. Elle commence en mars et se poursuit jusqu'en novembre. Mais qu'en est-il des économies escomptées? Les données les plus souvent citées font état d'économies d'énergie de 1%, sauf dans des régions plus chaudes où la climatisation annule les économies réalisées. Lors des Jeux olympiques de 2000, quelques États australiens avaient prolongé la période d'application de leur avancée pour faciliter la diffusion des épreuves. En comparant les consommations d'énergie entre États, une équipe de chercheurs concluait dans le Journal of Environmental Economics and Management que les économies d'énergie ne sont pas au rendez-vous. Reste la prévention des blessures.
Quand on m'a demandé là, de réfléchir à ce sujet-là, je ne pensais pas qu'il y avait de lien, mais j'ai consulté la littérature scientifique et j'ai trouvé quelques études qui portaient sur ce sujet.
Michel Lavoie, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, a rédigé un avis sur l'effet de l'allongement de la période d'application de leur avancée sur les risques de blessures.
Alors donc, les résultats des études que j'ai consultées démontrent que le nombre de blessés sur le réseau routier, en particulier les piétons, diminue. Il y a 3 facteurs qui sont avancés par les chercheurs pour expliquer cet effet-là. Le premier, c'est que quand on passe à l'heure avancée, on se trouve à décaler d'une heure la période d'exposition à la lumière du jour par rapport aux activités quotidiennes. Ce décalage a pour effet d'augmenter le nombre de piétons exposés à la lumière du soleil parce que, en après-midi, il y a plus de piétons qui circulent sur la rue que le matin. Et aussi, la lumière du jour a un effet protecteur. Elle réduit le risque de blessure chez les piétons en les rendant plus visibles. Alors donc, quand on passe à la période d'heure avancée, on augmente le nombre de piétons qui profitent de l'effet protecteur du soleil, ce qui réduit le risque de blessure.
Gérard Bernard est horloger depuis 48 ans. Les changements d'heure, il connaît. Chez lui, on remonte, littéralement, le temps à la main.
Celle-là, si je veux la reculer, je ne peux pas. Mais il faut faire le tour complet ou bien l'arrêter. Puis dans une heure après, on repart le pendule, c'est tout. Ouais.
Est-ce que vous avez souvent des malades qui arrivent après que les gens aient touché à l'aiguille des heures ou mal fait leur changement d'heure?
Oui, oui, oui. Oui, très souvent. Entendez-vous?
Oui. Qu'est-ce qu'on lit aussi?
Tempus fugit, c'est simplement un proverbe latin qui signifie le temps fuit.
C'était un reportage de Sophie-André Blondin, Tempus fugit. J'y viens dans quelques secondes avec Étienne Klein. Après, peut-être une réaction de Serge Bouchard à ce qu'on vient d'entendre, Serge?
Non, mais on voit bien l'indécision et l'adaptation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas ça? Il y a une province canadienne qui ne le fait pas. Imaginez-vous, dans un pays comme le Canada, puis il y a des zones grises.
Oui, oui.
C'est intéressant parce qu'il y a des zones grises et le changement d'heure, ça touche l'aube, le crépuscule, les heures de méditation. Alors, non seulement les piétons se font frapper plus, mais il y a plus de créativité artistique et plus d'inspiration.
Formidable.
Et on modifie les périodes de création.
Alors, je me tourne maintenant vers Paris, vers Étienne Klein, donc, je le rappelle, auteur, entre autres, de 2 ouvrages au titre très évocateur, « Les tactiques de Cronos » et « Le facteur temps ne sonne jamais 2 fois ». Alors, Étienne Klein, on le disait en première heure, les physiciens et les philosophes ne voient pas le temps comme le commun des mortels. Ça pose des questions philosophiques troublantes. Vous dites d'inusables questionnements. Ce fameux « tempus fugit », là, c'est pas clair qu'il passe vraiment, hein.
Oui, c'est pas clair parce qu'on dit que le temps fuit, c'est la traduction de ce proverbe latin, et en même temps, il est toujours là.
Donc,
on a l'impression qu'il y a toujours du temps qui est là et qui passe, mais il passe pas vraiment parce qu'il est toujours là. Et donc, il y a cette espèce d'idée que le temps se donne à nous par sa fluidité, par son évanescence, par le fait qu'il est insaisissable, et en même temps, il est toujours là à faire son travail de temps, qui est de renouveler l'instant présent. Et cette confusion entre le temps et le changement, entre le temps et ce qui se passe dans le temps, a été évacué par Newton, l'un des pères de la physique moderne, qui a eu cette idée assez géniale de considérer que le temps, c'est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que le temps en passant, ne change pas sa façon d'être le temps. On dit que le temps est homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les instants du temps sont équivalents. Ils ont le même statut vis-à-vis des lois physiques. C'est-à-dire qu'en passant, le temps ne change pas les lois physiques. Mmh. Elles sont les mêmes à tous les instants du temps. Si vous faites une expérience aujourd'hui, par exemple, vous faites tomber votre stylo, il va suivre une certaine trajectoire qui sera la même que si vous le faites tomber dans 10 000 ans ou que si vous l'aviez fait tomber il y a 10 000 ans. Et ça se traduit dans les équations de la physique par le fait que le temps ne dépend pas du temps. Il est toujours le même, il a le même statut. Évidemment, il y a du mouvement en lui, puisqu'il renouvelle l'instant présent, il avance d'une certaine façon, mais on ne peut pas l'assimiler au mouvement lui-même.
Dans les questions philosophiques troublantes et inusables, comment le temps avance-t-il, ou à l'inverse, comment se fait-il que le temps n'arrête pas, ne puisse pas suspendre son vol, comme le demandait le poète?
Oui, alors qu'est-ce qui fait passer le temps? Ça, c'est un grand mystère, parce que oui, dans la physique classique, disons celle de Newton, on considère qu'il y a un moteur du temps. Vous savez, quand vous tracez l'axe des temps, vous mettez une petite flèche sur cet axe qui signifie que ça avance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Vous êtes obligé de suivre ce qu'on appelle le cours du temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette motricité à l'intérieur même du temps? En fait, on n'en sait rien, et c'est pour ça qu'on met la flèche. Oui. La flèche, elle est là pour montrer qu'on a compris qu'il y avait un moteur, sans qu'on soit capable d'expliciter la nature de ce moteur. Mm-hmm. Vous savez qu'Einstein allait jusqu'à dire que le moteur du temps, c'est nous. C'est-à-dire que l'espace-temps, parce qu'on parle d'espace-temps en relativité, pas d'espace et de temps séparément, mais l'espace-temps est une sorte d'arène éternelle, atemporelle. Et c'est notre mouvement d'observateur dans cet espace-temps, c'est le fait que nous suivions notre propre ligne d'univers dans cet espace-temps qui crée l'impression que nous avons d'un temps qui passe. Dans ce cas-là, le moteur du temps, c'est notre conscience.
Oui, mais si nous ne sommes pas là, le temps passe quand même?
Alors, c'est la grande question. C'est-à-dire, est-ce que le temps est affaire de subjectivité ou est-ce qu'il y a une objectivité du temps? Alors, certains philosophes, comme vous le savez, défendent l'idée que c'est nous qui temporalisons l'univers. Il y a une sorte de grille de lecture dans notre cerveau par laquelle nous temporalisons tous les phénomènes dont nous sommes les spectateurs. Bon, Kant, par exemple, défendait des idées qui allaient dans ce sens. Mais ces philosophies ont un problème qui est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu dans l'univers des événements, par exemple l'apparition du Soleil ou bien la création de certaines étoiles beaucoup plus anciennes que le Soleil. Il y a donc des événements que nous pouvons dater et qui sont antérieurs à l'apparition de la conscience.
Bien sûr.
Et donc si le temps est un produit de la conscience, on comprend mal qu'il y a eu des événements temporels précédant l'apparition de la conscience.
Donc il doit y avoir quelque chose d'autre que ce qu'il y a dans notre conscience.
Et donc on peut défendre l'idée qu'effectivement il y a une objectivité du temps, en tout cas de la chronologie de l'univers, qui transcende ce qu'on peut en percevoir.
Vous dites quelque part, le temps des physiciens est un être simple, tant mieux. Il y a une seule dimension alors que l'espace a trois dimensions. Le temps peut être soit linéaire, soit cyclique, c'est les deux représentations. Et vous dites que les physiciens ont adopté le modèle linéaire. Pourquoi?
Oui, alors déjà, je dis que le temps est simple. C'est-à-dire, Balzac disait le temps est un grand maigre. Pourquoi? Parce que dans notre langage, quand nous parlons du temps, nous l'identifions au phénomène temporel. C'est-à-dire quand on voit que le temps est cyclique, ou plutôt quand on voit qu'il y a autour de nous des phénomènes cycliques, par exemple les impôts, on dit tiens, le temps est cyclique. Mais le temps ne ressemble pas forcément à ce qu'il contient. Et d'ailleurs, les physiciens, en tout cas en physique classique, distinguent le temps des phénomènes temporels. Le temps et l'espace sont des êtres d'une nature particulière qui préexistent aux objets physiques et dans lesquels viennent s'installer les objets physiques qui subissent ensuite des phénomènes. Mm-hmm. Donc le temps et l'espace sont indépendants des phénomènes en physique classique.
Et ce qui fait qu'on choisit le modèle linéaire du...
Alors, le modèle linéaire, c'est parce qu'on croit tous, qu'on soit physicien ou qu'on ne le soit pas, qu'on ne peut pas modifier le passé. Ce qui a eu lieu dans le passé a eu lieu. C'est-à-dire, si vous renversez votre tasse de café aujourd'hui, et si demain vous nettoyez la place, et si vous remplacez la tasse de telle sorte que quelqu'un qui viendrait vous voir ne se rendrait compte de rien, vous pouvez donc, si vous avez fait cela aujourd'hui, effacer les effets que ça va produire demain. Mm-hmm. N'empêche qu'il restera vrai qu'aujourd'hui, vous avez renversé une tasse de café.
Ce qui s'est fait, ce qui a eu lieu, a eu lieu. Vous dites, si le temps fait tic-tac, il ne fait jamais tactique, il ne revient pas en arrière.
Voilà, si dans un temps cyclique, vous voyez bien qu'en allant vers le futur, si le temps a la forme d'un cercle, en allant vers le futur, vous revenez dans le passé, en fait. Et donc, si vous êtes l'effet d'une cause particulière, vous pouvez, en tant qu'effet, rétroagir sur cette cause. Par exemple, dans un temps cyclique, en allant vers le futur, c'est-à-dire en vieillissant, vous pourriez rencontrer votre mère avant qu'elle rencontre votre père.
Oui.
Et vous pourriez l'empêcher de le rencontrer.
C'est embêtant.
C'est embêtant pour vous. Et c'est pour éviter ces drames dans les familles qu'on choisit un temps linéaire dans lequel un effet ne peut pas rétroagir. Oui. Sur la cause qu'il a provoquée.
C'est ça, vous dites, le temps doit être linéaire parce que le principe de causalité est ce qu'il est. Et on doit, c'est pour ça que les physiciens ont choisi un temps linéaire. Mais c'est dommage pour les voyages dans le temps, pour ce que vous appelez les uchronies, c'est magnifique. Dommage pour les visiteurs, dommage pour retour vers le futur. Il n'y en a pas de voyage dans le temps dans la tête des physiciens, c'est plus possible.
C'est une histoire compliquée parce qu'en fait, vous pouvez voyager dans le temps de quelqu'un. En relativité, c'est permis. C'est-à-dire, si vous partez dans une fusée très rapide, vous allez visiter une galaxie lointaine, et si vous revenez au bout d'un certain temps à votre montre, lorsque vous reviendrez, vos collègues que vous aviez laissés dans le studio seront beaucoup plus âgés que vous.
Ça va être une catastrophe. Donc, parce qu'ils le sont déjà pas mal.
Donc on va dire que votre temps à vous a voyagé dans leur temps.
Oui.
Mais ce qui est impossible selon la physique, et c'est en vertu du principe de causalité qu'on vient d'évoquer, c'est que vous ne pouvez pas voyager dans votre temps à vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retourner dans votre propre passé, mais vous pouvez voyager dans le futur de quelqu'un d'autre, à condition d'aller très vite dans l'espace.
Mmh. Le temps a été vraiment très secoué, hein, violemment, vigoureusement par la physique moderne, Einstein, la relativité, l'antimatière, tout ça, vous expliquez tout ça, même la théorie des trous de ver, mais tout ça confirme finalement, puis c'est rassurant à la fin que le temps existe. C'est quand même formidable, non ?
Qu'il existe, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il existe ? Quand on dit qu'il existe, est-ce qu'on veut dire qu'il existe comme une entité autonome ? Après tout, on désigne le temps par un substantif.
Oui.
Le temps, notre ami anthropologue pourrait le confirmer, c'est un mot qui n'existe pas dans toutes les langues. Mais nous avons inventé ce mot qui dit le temps, qu'on désigne donc que par un substantif, ce qui pose la question de savoir de quelle substance il est fait.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est un être autonome ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fait que traduire dans un langage et avec un concept qu'on peut saisir les phénomènes temporels, ce qui se passe dans le temps? C'est la grande question.
Alors tout ça, on trouve ça, toutes ces questions-là, et beaucoup de réponses quand même dans vos deux livres, hein, donc que j'ai cité, les techniques de Cronos et le facteur temps ne sonne jamais deux fois, des lectures stimulantes qui ne sont pas du temps perdu, je peux vous le garantir. Une petite réaction, Serge Bouchard, anthropologue, qui vient d'être interpellé par Étienne Klein.
Mais on voit bien, je vous écoutais échanger, on se frappe la tête, on se cogne la conscience, vraiment aux limites de l'imaginable et de l'inimaginable, ou de penser le néant, penser c'est l'univers avant l'univers, le temps hors du temps, soi et revenir en arrière.
Le mot temps qui n'existe pas dans, dans toutes les langues.
Effectivement, puis ça a été étudié, où on voit que la vision du monde n'est pas, là-dessus, n'est certainement pas universelle. Mais il reste qu'il y a des questions vraiment limites qui interpelle la conscience, et nous n'avons pas parlé de cette angoisse. La conscience, c'est la matière qui réfléchit sur elle-même, finalement, et qui ne trouve pas la solution à la temporalité. C'est-à-dire, nous ne serons plus.
Un jour.
Et le fameux tic-tac est à la fois une mesure de quelque chose, mais c'est aussi l'angoisse psychologique de la fin.
De la finitude. Alors on va maintenant changer presque de monde avec un reportage sur le temps et le vivant. L'être humain fonctionne selon des rythmes biologiques, on le sait, veille, sommeil, température, etc. C'est une horloge interne qui coordonne tous ces rythmes quotidiens, saisonniers. Il y a aussi la question de la perception du temps, qu'en est-il ? Donc, on a du côté de la biologie, on s'intéresse aussi beaucoup au temps. On sait qu'il n'y a pas nécessairement de sens du temps qui soit comparable au sens de la vue, au toucher, à l'odorat. Et là-dessus, le reportage de Hugues de Roussan.
Ici, on est dans la salle de contrôle de notre laboratoire de recherche sur les rythmes circadiens, autour de laquelle on a des salles d'isolation temporelle, c'est-à-dire des salles...
Diane Boivin est médecin et elle dirige le Centre d'études et de traitement des rythmes circadiens de l'Institut Douglas. Le corps humain fonctionne selon certains cycles, notamment ceux qu'on appelle circadiens. Ils sont d'une durée de 24 heures et 12 minutes en moyenne. Ces cycles sont rythmés par une horloge interne centrale située dans le cerveau, juste à l'arrière de la jonction des deux nerfs optiques. Cette horloge rythme, entre autres, le cycle de certaines hormones.
La mélatonine, c'est une hormone qu'on qualifie d'hormone de la noirceur parce qu'elle est sécrétée en période nocturne. Et ce, qu'on soit une espèce animale diurne ou nocturne. L'être humain, on est des animaux diurnes. Même si on travaille la nuit, on reste des animaux diurnes. Donc, la mélatonine est sécrétée généralement lorsqu'on dort. La sécrétion commence en fin de soirée, atteint un pic en milieu de nuit, redescend le matin. Et on lui attribue à la mélatonine chez l'humain, chez les animaux diurnes, certaines propriétés hypnotiques, c'est-à-dire favorisant le sommeil. Si maintenant on parle du cortisol, c'est une hormone qui a fait couler beaucoup d'encre de par ses relations avec le stress, avec la santé mentale. C'est une hormone donc qui oscille selon un rythme de 24 heures avec un pic de sécrétion autour de l'heure habituelle de lever et qui descend progressivement au cours de la journée pour atteindre un minimum dans les premières heures de la nuit. Si vous prenez l'avion pour vous rendre à Paris, quand vous êtes rendu à Paris, la mélatonine continue d'être sécrétée avec un pic vers 4 heures du matin, heure de Montréal, et le cortisol a un pic vers 8 heures le matin, heure de Montréal, même si vous êtes à Paris.
Il faut quelques jours à l'horloge biologique pour s'ajuster à un nouveau fuseau horaire, l'équivalent d'une journée par heure de décalage. Mais qu'en est-il pour les travailleurs qui travaillent de nuit et qui dorment le jour?
Il y a quand même des éléments de fatigue, même si je fonctionne très bien de nuit. Des petites douleurs dans le dos, des petits éléments qui me font, en temps normal, savoir qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée.
Alors, Raphaël Bergeron est policier à Montréal depuis plus de 8 ans. C'est un oiseau de nuit. Son horaire, de 11 heures du soir à 7 heures du matin. Il travaille 7 nuits de suite et s'est suivi de 6 jours de congé.
Et moi, ce que je fais aussi lorsque je travaille de nuit, c'est de respecter les heures de repas en grosse partie et d'éviter de manger des repas très, très lourds la nuit, ce qui fait que j'ai essayé diverses solutions, j'ai essayé diverses techniques et bien évidemment, j'ai réalisé que lorsque je mange un gros repas durant les nuits, ça amortit mon système et c'est beaucoup plus difficile à compléter mes nuits.
Donc, durant la nuit, la tête vous dit quelque chose et à certains moments, le corps vous dit autre chose.
Effectivement. Des fois, il y a des envies qui sont présentes. On voudrait bien se taper une bonne bouffe au milieu de la nuit, mais le corps, on sait très bien que ça ne fonctionnera pas ou ça va être plus difficile pour nous de fonctionner.
Et est-ce que vous arrivez d'avoir, dans ces cas-là, avoir à lutter contre le sommeil, une certaine torpeur là, qui s'installe, surtout, disons, dans une nuit où il n'y a pas vraiment d'action?
Ça arrive souvent qu'on doit combattre la fatigue. On essaie de trouver des solutions. Alors, on stationne la voiture. Dans mon cas, j'aime bien sortir de mon véhicule, prendre de l'air frais, ce qui m'aide, ou patrouiller, bien évidemment, même en hiver, par des températures excessivement froides, la vitre baissée, de façon à me tenir réveillé et à me permettre, justement, de pouvoir fonctionner.
L'être humain est un animal diurne. Est-il vraiment capable de renverser son horloge biologique et de vivre à l'envers des autres, et ce, sans aucun impact sur sa santé? La docteure Diane Boivin ne le croit pas.
On est des animaux diurnes. Même si on essaye de se transformer en animaux nocturnes, donc à travailleurs de nuit, on est des animaux diurnes. Une infime portion de travailleurs de nuit arriveront à s'ajuster. La majorité ont des problèmes de désynchronisation de leur rythme biologique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on demande à l'organisme d'être éveillé à un moment où son organisme voudrait dormir et dormir lorsque son corps voudrait commencer à s'éveiller. Il résulte des perturbations de la vigilance et du sommeil qui sont importants et qui, avec les années, on pense, contribuent de façon importante à l'apparition de troubles médicaux reliés au travail de nuit et même psychologiques.
Quel genre de troubles?
Dans cette population, il y a plus de problèmes cardiovasculaires, il y a plus de problèmes métaboliques, diabète, hyperlipidémie, hypercholestérolémie. Les travailleurs de nuit ont tendance à faire de l'embonpoint. Et il y a des difficultés aussi au niveau du cycle menstruel, de la fertilité, des troubles digestifs, des problèmes d'immunité, une augmentation du risque de divers cancers et plus de problèmes d'anxiété et de dépression. Est-ce que c'est uniquement la désynchronisation circadienne qui explique tout ça? Ça serait difficile d'établir une relation causale formelle à 100%, mais toutes les évidences nous montrent qu'il y a une participation très importante de la désynchronisation circadienne et de la perturbation du sommeil a des impacts pour la santé.
L'horloge centrale interne située dans le cerveau n'est pas toute seule. Il existe également un réseau d'horloges dites périphériques qu'on retrouve dans tous les tissus et organes du corps humain, sauf dans le thymus et les testicules. Nicolas Sermakian est professeur adjoint à l'Université McGill et chercheur à l'Institut Douglas.
Ces gènes de l'horloge sont évidemment présents dans toutes les cellules de l'organisme et sont exprimés dans la plupart de nos organes. Et comme vous dites, il y a une horloge centrale dans le cerveau et il y a plusieurs horloges dans d'autres régions du cerveau et dans d'autres tissus périphériques. Ces différentes horloges à l'intérieur de notre corps communiquent entre elles. Donc, à l'intérieur de chacun de ces tissus, on a la mesure du temps par ces gènes de l'horloge. Et on a cette horloge centrale qui va, disons, donner le temps ou synchroniser toutes les horloges du corps. Je fais toujours l'analogie à un orchestre. Ceux qui jouent des instruments dans l'orchestre sont très bons à jouer leur instrument, mais ça prend le chef d'orchestre pour un peu donner le rythme à tous ces gens. Donc, c'est un peu ce que fait l'horloge centrale dans le cerveau, c'est de synchroniser les différentes horloges dans le corps.
L'horloge interne est endogène, vous l'avez dit, donc c'est encodé dans le code génétique. Est-ce qu'il y a un gène de l'horloge?
Il y a une dizaine ou une quinzaine de gènes qu'on appelle carrément gènes de l'horloge et dont la fonction principale, ou la seule connue jusqu'à maintenant, est de mesurer le temps. Ces gènes de l'horloge et leurs produits, les protéines de l'horloge, vont interagir ensemble d'une façon telle que ça va créer des rythmes dans les cellules qui contiennent une horloge. Alors, ces protéines de l'horloge vont agir sur des centaines d'autres gènes dans les cellules où il y a une horloge, et ces centaines d'autres gènes vont présenter à leur tour des rythmes dans leur expression.
Si l'être humain a une horloge biologique interne qui lui permet de rythmer certains de ses cycles, en a-t-il une pour évaluer de façon précise le temps qui passe ou pour savoir combien de temps il lui reste pour terminer une tâche? C'est à ce genre de questions qu'on tente de répondre au laboratoire de recherche en psychologie de la perception de l'Université Laval.
Madame ici va avoir à reproduire des intervalles temporels avec le clavier à l'ordinateur.
Mylène Ross est assistante de recherche. Elle mène une expérience sur la perception temporelle.
Il va y avoir des flashs de lumière, puis avec le clavier, il va reproduire l'intervalle temporel selon ce qu'elle pense qui est représentatif de ce que l'intervalle était.
Chaque personne a sa propre perception du temps qui passe, perception qui peut varier en fonction de l'expérience et des événements de la journée. Simon Grondin est professeur de psychologie à l'Université Laval.
Il faut peut-être se rendre sensible au fait qu'on va vite avoir l'impression que le temps a passé. Si l'autobus doit arriver dans 10 minutes, vous n'aurez pas besoin d'une montre pour savoir qu'il y a un délai, que c'est pas normal. Ou encore, si vous êtes à un feu rouge, vous n'aurez pas besoin d'attendre très, très longtemps, puis vous n'aurez pas besoin de consulter votre montre pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça aurait dû passer au feu vert.
Donc, la lumière rouge est là depuis un peu trop longtemps.
Depuis trop longtemps, sans l'avoir chronométré, mais vous en avez, appelons ça, au minimum l'intuition. Puis vous n'avez pas été averti d'avance, « Hey, n'oubliez pas de calculer combien de temps ça va rester au feu rouge. » Non, non, vous allez avoir cette impression-là spontanément. Puis là, on peut penser que c'est parce qu'il y a une stimulation rouge, mais la fascination, ce qui est vraiment intéressant à propos du temps, c'est que c'est toujours là à l'intérieur de soi.
Certaines personnes ont plus que d'autres une idée précise du temps. Les athlètes de haut niveau, par exemple, semblent avoir un chronomètre dans le cerveau. Sébastien Messier est entraîneur-chef au club de natation de la piscine olympique de Montréal. Il entraîne depuis 17 ans et au cours de cette période, il a été à même de constater que les athlètes développent un sens du temps hors du commun.
Il y a deux facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est que bon, pour être un athlète de haut niveau, il faut s'entraîner souvent. En natation, c'est un sport qui est très répétitif. Alors, les nageurs viennent à un point où est-ce qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils sont, combien de secondes a duré le 50 ou le 100 mètres qu'ils ont fait. L'autre élément, c'est par rapport aux sensations que les nageurs développent. Quand ils vont à une certaine vitesse, une vitesse de compétition, par exemple, par rapport à la sensation qu'ils ont dans l'eau, les nageurs vont dire souvent « Ah, je me sentais bien ». Bon, mais quand ils se sentent bien, normalement, ils savent qu'ils vont vite. Alors, ils ont une bonne idée là, de la vitesse exacte à laquelle ils vont.
Laurence Côté-Leduc a 17 ans. Originaire d'Abitibi, elle a déménagé à Montréal il y a 2 ans pour s'entraîner. Classée nationale, son rêve, c'est de participer aux Jeux olympiques. Dans son cerveau, un chronomètre compte les secondes pour elle.
Mais évidemment, depuis, je dirais même que je suis très jeune, parce qu'on va dans la piscine quoi, vraiment beaucoup d'heures par semaine, donc je ne veux pas ce chronomètre-là, il s'installe assez rapidement. Je dirais que oui, je l'ai.
Est-ce que c'est un chronomètre qui est aussi précis qu'un dixième de seconde? Si ton entraîneur, par exemple, te demande, fais-moi 10 longueurs de 50 mètres en 30 secondes.5, est-ce que tu es capable de les faire en 30 secondes.5?
Ça m'en prend un à deux pour m'habituer, puis après ça, je vais être capable de toutes les tenir, oui, avec ce espèce de petit chronomètre-là. Là, c'est...
Le problème des chercheurs, c'est comment mesurer la perception du temps. Quelle technique choisir? Quel instrument de mesure utiliser? Qu'il existe ou non d'ailleurs un mécanisme physiologique qui permettrait à l'être humain de percevoir avec exactitude le temps qui passe. Le professeur Simon Grondin.
On va penser qu'il existe une horloge interne. On va penser donc qu'il y a un mécanisme physiologique, mais sans se prononcer, sans dire exactement en quoi consiste l'horloge interne, on va d'abord faire comme s'il y avait une horloge interne, puis on va essayer d'étudier ses propriétés. L'idée la plus commune dans le domaine de la perception du temps, c'est de croire qu'il y a un émetteur et puis un compteur, un accumulateur. Il y a un émetteur qui va émettre des impulsions qui vont être accumulées dans un compteur. Et puis, le cumul de ces impulsions-là va nous permettre de faire une lecture du temps qui passe. Ce qui fait que plus on accumule de ces impulsions-là, plus on aura l'impression que le temps est long. C'est très difficile d'étudier le temps. Quand on dit qu'on étudie l'horloge interne, on essaie d'étudier les propriétés de l'horloge, mais souvent, la variabilité ou les distorsions qu'on va rencontrer vont être attribuables peut-être pas au mécanisme d'émetteur ou d'accumulateur, mais au mécanisme d'interrupteur qui est sous le contrôle des processus d'attention. Ou encore, la variabilité va venir de la représentation qu'on a et puis des erreurs de mémoire que l'on peut commettre au moment, par exemple, de poser un jugement ou de prendre une décision.
C'était un reportage de Hugues de Roussin. Tiens, perception du temps, je vais faire un petit test. Serge Bouchard, combien a duré le reportage de mon ami Hugues de Roussin?
Parce qu'il est très intéressant, ça a été très court.
Et vous, Étienne Klein à Paris, votre perception?
Je pense qu'il a duré 16 minutes 0 secondes.
Non, c'est 12 minutes 37 avec ma perception du temps.
Mais
ma feuille de route.
J'ai pas lu la feuille de route au bon endroit. Brève raison, c'est 12 minutes.00.
Oui, c'est ça. Étienne Klein, comme le physicien que vous êtes, comment il voit cette irruption de la biologie dans le temps, dans la science du temps, dans la mesure du temps?
La biologie est la science qui monte. Donc, je ne vais pas en dire de mal. Il est établi qu'il y a une horloge interne. La question est de savoir si on peut lire cette horloge.
Oui, oui, oui.
Et en fait, notre sens du temps, ça a été montré par pas mal d'études, est assez mauvais, assez peu fiable. Quand nous sommes concentrés, c'est le cas des nageurs qui essaient de comprendre quelle est leur vitesse à partir de l'aisance qu'ils éprouvent dans l'eau, on arrive à des mesures assez précises. Mais si je vous demande combien de temps s'est passé entre tel moment et tel autre, sans vous avoir prévenu, oui, à l'avance, sans que vous ayez eu la possibilité de vous concentrer sur cette opération, vous allez donner des indications qui seront sans doute très fausses. C'est-à-dire que nous n'avons pas un sens précis du temps parce que notre rapport au temps physique est perturbé par toutes sortes de phénomènes.
Oui, nous sommes de mauvais mesureurs. Naturellement, on n'a pas ce rapport à l'unité discrète. Le temps, lui, ne change pas, mais nous, on change beaucoup au temps. Et on a toutes sortes de discours et toutes sortes de positions.
Heureusement, c'est pour ça qu'on a une montre au poignet. Et ça nous donne un peu de liberté, d'ailleurs. Ça nous donne un peu de liberté.
Alors donc, il y a du temps partout, hein, tout le temps, d'ailleurs. Et on le voit depuis le début de notre émission, qui a commencé il y a 1h29 minutes 35 secondes, je crois.
Ça serait devenir fou.
Mais sachez qu'il y a aussi du temps dans la matière. En fait, il faut maîtriser le temps, ou plutôt maîtriser la durée, pour voir la matière. Je vous propose maintenant un voyage au pays de la science attoseconde. Gracieuseté de Sophie-André Blondin.
C'est amusant parce que quand mes collègues m'ont parlé de votre venue, il se trouvait que je venais de lire un livre sur Gaston Bachelard qui disait que la seule réalité du temps, c'est celle de l'instant, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle des lasers, c'est que l'instant permet de non seulement de voir, comme l'astroboscopie, il permet de voir la matière évoluer, bouger, il permet aussi de éventuellement de ramasser l'énergie sur un temps très très court, et donc on peut l'utiliser comme une percussion, comme un marteau. Et dans ce sens, le temps... Et le temps, mais à travers l'instant, est intimement lié à la compréhension de la matière.
Nous sommes à Varennes, au Centre Énergie et Matériaux de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et le directeur Jean-Claude Kieffer commente le lien qui unit le temps et la matière. Pour voir la matière, pour la manipuler éventuellement, il faut la croquer sur le vif, dans l'instant. Ces instants se mesurent aujourd'hui en fractions de fractions de fractions de secondes, avec des impulsions laser qui permettent de voir la matière jusque dans l'intimité de ses électrons. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le chimiste François Légaré, professeur à l'INRS à Varennes.
Donc, le fondateur de l'université Stanford, s'intéressait beaucoup aux chevaux. Et à la fin du 19e siècle, il y avait tout un débat. Est-ce que le cheval, est-ce que les quatre pattes quittent le sol? Bien, il n'y avait personne qui pouvait répondre à la question. Donc, Stanford a ouvert un concours. Et c'est Edward Moorbridge qui a, en quelque sorte, par une série d'appareils photo là, connectés ensemble, réussi à regarder la dynamique quand le cheval court et de voir les quatre pattes quitter le sol. Je peux dire que c'est vraiment la première expérience de dynamique ultra rapide. Donc, il y avait une question, puis il a fallu développer une méthode de cinématographie ou de photographie pour voir ce mouvement-là. C'est la même chose avec les électrons. Pour les voir, il faut avoir un appareil qui va nous permettre de suivre leur dynamique, leur mouvement dans le temps.
Ces appareils pour réaliser le film des électrons, ce sont des systèmes laser qui génèrent des impulsions lumineuses d'une rapidité plus que fulgurante. Vous voulez fixer l'image nette d'une voiture qui défile à 300 km à l'heure sur une piste de course, il vous faudra un appareil photo au déclenchement très rapide. Vous voulez voir la danse des électrons dans un atome, il vous faut des impulsions laser de quelques dizaines d'attosecondes.
La raison pourquoi je suis allé en sciences attosecondes, c'est ce rêve-là de filmer en temps réel les réactions photochimiques.
Sur l'échelle des durées, l'attoseconde est aussi courte par rapport à la seconde que la seconde est elle-même courte par rapport à l'âge de l'univers. Descendons avec Jean-Claude Kieffer l'échelle des durées depuis la seconde.
Vous avez la seconde. Vous avez la milliseconde qui est un millième, c'est 10⁻³ secondes. Vous avez la microseconde qui est 10⁻⁶ secondes. Ensuite, vous avez la nanoseconde à 10⁻⁹ secondes, donc un milliardième de seconde. Puis vous avez la picoseconde à 10⁻½. Vous avez la femtoseconde à 10⁻⁰ secondes. Et vous avez l'attoseconde à 10⁻⁞ secondes. Éventuellement la zeptoseconde qui est à 10⁻⁡ secondes.
Si on prend l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, ça prend 150 attosecondes à l'électron pour faire le tour de l'orbite 1s de l'atome d'hydrogène. Donc l'orbite 1s, c'est l'orbital fondamental, c'est l'état électronique dans lequel l'électron se retrouve. Donc ça lui prend 150 attosecondes pour faire le tour. Si je veux voir une dynamique qui a lieu sur des temps très rapides, j'ai besoin d'un appareil photo qui est plus vite en quelque sorte. Et comme je disais, mon rêve, c'est de filmer la réaction chimique. Et la réaction chimique, c'est des échelles temporelles attosecondes. Donc, j'ai besoin de ces impulsions-là pour voir cette dynamique-là en temps réel.
Bienvenue dans le laboratoire AWS pour Advanced Laser Light Source, toujours au Centre Énergie et Matériaux de l'INRS à Varennes.
Je vais vous introduire à un système laser femtoseconde qui est basé sur la technologie titane saphir. Pour faire des lasers très courte durée, c'est plus souhaitable d'avoir ce milieu-là.
L'assistant de recherche Philippe Lasson, des responsables des systèmes laser.
Disons qu'on fait notre possible. C'est pas toujours facile, mais on arrive à faire des bonnes choses ici, puis on est vraiment bien placé pour concurrencer avec au niveau international pour la génération d'impulsions attosecondes.
Étalés sur des grandes tables avec leurs relais optiques, les différents systèmes laser ont des allures qui rappellent les bonnes vieilles machines à boules.
Ah, bah!
Oh, il y a du verre! Excusez.
On n'est pas censé voir du vert.
Les impulsions laser femtosecondes d'une durée de 10 à la moins 15 secondes n'ont presque plus de secret pour les chercheurs ici.
À la sortie du réseau, toutes les couleurs arrivent en même temps, ce qui forme l'impulsion.
Mais pour réaliser le rêve de filmer la matière dans son intimité la plus minuscule, François Légaré et Philippe Lassonde doivent contribuer à maîtriser et à caractériser les impulsions attosecondes d'une durée, rappelons-le, de 10 à la moins 18 secondes. Des travaux qui se situent dans la continuité d'une course, une course vers des durées de plus en plus courtes.
Les molécules, elles peuvent tourner, donc la rotation. Ça, c'est une échelle temporelle picoseconde. On est capable de regarder ce genre de mouvement-là depuis le début des années 80. Après, il y a la vibration, qui est la femtoseconde, donc comment les molécules vibrent. Ça, on est capable de faire ça, disons, depuis le milieu des années 90, même fin des années 80. 2001 a été la première démonstration de l'impulsion attoseconde isolée. En allant à 10 attosecondes, ce que l'on essaie de faire, bien, on serait capable d'avoir vraiment un film complet en temps réel de la dynamique électronique, donc de l'électron qui est comme la Ferrari qui tourne sur la piste de course.
Mais comment une échelle de temps peut-elle livrer les secrets intimes de la matière? Comment l'impulsion laser interagit-elle avec la matière jusqu'à l'électron? Le physicien canadien Paul Corkum a suggéré le mécanisme en 1993 et les simulations du chimiste André Bandrock de l'Université de Sherbrooke ont contribué à faire avancer la science attoseconde. Depuis, des laboratoires de partout travaillent à mettre la théorie en application. Les explications de François Légaré.
Une impulsion laser, ben, c'est un champ électromagnétique qui oscille. Et à chaque pic d'oscillation, donc il y a un champ électrique suffisamment élevé pour arracher l'électron à l'atome. Hein? Un champ électrique, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse les charges. Cet électron-là qui est arraché, ben, il peut revenir à l'atome. Et automatiquement, il y a génération de rayonnement X. Donc, cette physique-là, ben, c'est le célèbre article du docteur Paul Corkum en 1993, qui travaille au Conseil national de recherche du Canada. Puis ce qui est fantastique, c'est que toute la physique s'explique avec une équation avec F égale ma qui est égale à Q fois E, des électrons de base que l'on apprend au cégep. C'est la beauté de cet article. On arrache l'électron une seule fois, il revient une seule fois, on a un seul flash, on a une impulsion attoseconde.
Et là, vous êtes heureux.
Et là, on est heureux. Donc, on le sait qu'on génère des impulsions attosecondes. C'est certain. Il faut juste construire l'infrastructure pour les caractériser leur durée.
Le record mondial actuel est une impulsion de 80 attosecondes. Au laboratoire Haas de Varennes, on veut pulvériser ce record avec des impulsions de 10 attosecondes. Mais les records ne sont pas la seule chose qu'on veut pulvériser.
Maintenant, on a une autre chambre à notre gauche.
Non loin des grandes tables de laser ultra-rapide, la chambre d'explosion coulombienne, enveloppée dans du papier d'aluminium comme un cadeau de Noël, permet d'envisager de faire tout un cinéma avec des molécules.
Donc, cette technique-là, on l'appelle l'explosion coulombienne. On explose la molécule. Donc, disons qu'on aurait suffisamment d'intensité dans nos impulsions attosecondes, on serait capable d'exploser nos molécules dans des temps attosecondes, ce qui nous permettrait de faire de la cinématographie de la molécule en temps réel. Et cette chambre-là, ce qu'elle a d'unique, c'est qu'on réussit à avoir de très, très faibles pressions, ce qui nous permet d'avoir une seule molécule dans le volume focal partir laser. Donc, on regarde une seule à la fois.
C'est vraiment du cinéma du tout petit, petit, petit. Là.
Oui, dans ce cas-ci, oui.
Moi, mon rêve, c'est le rêve de plusieurs chimistes. Comment qu'une liaison chimique se brise ou comment qu'une liaison chimique se forme? Actuellement, on est capable de regarder ça. On regarde comment que les atomes bougent. Mais moi, j'aimerais aussi avoir le film complet, aussi les électrons. Où vont les électrons? Par exemple, une question que beaucoup de gens se posent, quand on dissocie une molécule, par exemple, on envoie de la lumière sur une molécule puis on la dissocie, à partir de quand on peut considérer qu'elle n'est plus une molécule? Donc, à partir de quel moment où les électrons qui servaient à faire la liaison au début, à partir de quel moment ils sont localisés sur les atomes puis qu'ils ne se parlent plus? Le voir, réellement le voir comme un film, ça serait vraiment fantastique.
Au-delà de ce cinéma pour chimistes enthousiastes, Quel avenir pour la science du toujours plus court? Que faire avec ces impulsions attosecondes et un jour, des impulsions encore plus courtes, de l'ordre de la zeptoseconde? Le directeur du Centre Énergie et Matériaux de l'INRS, Jean-Claude Kieffer, envisage des applications concrètes.
Ce n'est pas purement fondamental, c'est une science fondamentale, mais qui est tournée vers les applications, même si ça paraît extrêmement exotique de parler de attosecondes, femtosecondes, zeptosecondes. Voilà. On a des applications sur un court terme, sur quelques années, qui concernent le cancer, la thérapie ou la chirurgie de la vue et de la vision, par exemple. Tout ce qui concerne la compréhension de la biologie moléculaire va avoir des répercussions au niveau de la pharmacologie, la façon dont on comprend et conçoit les médicaments à terme. Au lieu de les concevoir à l'aveugle, on va développer des générations d'outils pour les faire de façon systématique, ne pas avoir à dépenser autant d'argent pour la production de médicaments.
C'est encore difficile de dire à quoi ça va servir. C'est clair pour moi que si on a un outil qui nous permet de voir le mouvement électronique, le même outil, on peut s'en servir pour contrôler le mouvement électronique. Quelle expérience qu'on va faire, à quoi ça va servir? Il y a encore beaucoup d'eau qui vont couler sous les ponts.
C'était un atto-reportage ou un zepto-reportage de Sophie André Blondin. Je m'adresse à vous, Étienne Klein, comme directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière à Paris. Cette science atto-seconde, j'imagine que c'est avec ça que vous jouez vous aussi dans votre laboratoire. Hein.
Il y a effectivement un laboratoire à Saclay, Paris, où ils disposent d'un laser atto-seconde et font des expériences incroyables. Par exemple, ils peuvent reproduire une image toute petite, de dimension quelques nanomètres, à partir d'un seul flash laser. Oui. Et au lieu de faire un éclairage avec des impulsions qui se suivent, il y a une seule impulsion qui permet de faire une image. Donc effectivement, ça donne accès, comme ça a été très bien dit dans le reportage, à la dynamique de phénomènes très rapides. C'est-à-dire qu'on peut voir des phénomènes qu'on a toujours considérés comme instantanés, en fait, se déployer dans le temps.
Encore une fois, le temps.
L'exemple qui a été donné, à savoir, qu'est-ce qui se passe quand une molécule composée de deux atomes, par exemple, se dissocie? Vous savez que la liaison, elle est effectivement due aux électrons qui se baladent entre les deux atomes. Quand la molécule se dissocie, où vont les électrons et à quelle vitesse et comment rejoignent-ils les atomes individuels qui étaient leurs atomes de départ? Ça serait absolument fascinant à voir parce que ce sont des processus qui sont régis par la physique quantique, comme vous savez, une physique de l'infiniment petit. Et cette physique est très difficile à enseigner parce qu'elle est très conceptuelle. Mmh. Et si on pouvait filmer des processus quantiques et les donner à voir sur des écrans, on rendrait la pédagogie de la physique plus facile.
Ça m'a rappelé ce reportage, une phrase que vous avez dans votre livre sur Chronos. Vous dites que le temps, à partir du moment où le temps est appréhendé par les physiciens, il perd de son indépendance, il est lié à l'espace, associé à l'énergie, ancré dans la matière. C'est bien ça? Le temps n'est plus indépendant.
Il y a eu un petit nombre de révolutions en physique. Newton dit que le temps est un grand mec, c'est-à-dire le temps est indépendant des phénomènes comme l'espace. Il le met à nu en quelque sorte. Ensuite, Einstein, une fois que l'espace et le temps sont mis à nu, montre qu'en fait, ils ont des choses à se dire. Il les marie d'une certaine façon. L'espace et le temps forment ce qu'il appellera l'espace-temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution de la relativité restreinte. Et puis, un peu plus tard, il fait une théorie de la gravitation dans laquelle l'espace-temps devient lui-même un objet physique. C'est-à-dire, l'espace-temps devient solution d'une équation physique. Il est couplé à la matière et à l'énergie. Il n'est donc plus indépendant des phénomènes qui se déroulent en son sein.
Il nous reste vraiment peu de temps pour conclure cette émission spéciale sur le temps, évidemment.
Peu de durée, mais du temps, il y en a pour toujours.
Oui, c'est vrai, il nous reste peu de durée. dans la durée qui nous reste, comme on dit, ou hélas, c'est toute la durée qui nous reste, on va devoir dire ça maintenant à Radio-Canada. Ce qui est frappant, Étienne Klein, c'est effectivement ce temps qui paraît si simple, si évident, une donnée presque immédiate de la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça ressemble un peu à la savonnette sous la douche. Au moment où vous pensez de l'attraper, ça vous échappe, non?
Oui, c'est-à-dire, personnellement, je me suis intéressé à cette question pendant plusieurs années. À chaque fois, j'ai eu l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'avoir conclu la question. Et puis, quelques temps plus tard, cette même question se réactive parce qu'il y a des nouvelles idées.
Vous refaites un nouveau livre.
Là, je pense que je vais arrêter, mais effectivement, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Je l'ai écrit il y a peu de temps parce que le précédent livre se concluait en invoquant la question de l'irréversibilité. La dernière phrase, c'était « Il faut apprendre à aimer l'irréversible ».
Oui.
Et je me suis rendu compte que ce terme irréversible était ambigu, parce qu'on ne sait pas si on parle de l'irréversibilité du temps ou de l'irréversibilité de ce qui se passe dans le temps.
Oui, oui.
Et donc, j'ai écrit le deuxième livre pour éclaircir cette question.
Serge Bouchard, comme anthropologue, ça vous inspire quoi, toutes ces données, toute cette réflexion sur le temps?
Mais le secret était, à l'écoute du reportage, le secret était à la toute fin, là, dans les applications. C'est-à-dire la grande solidarité. Nous sommes de la matière. Nous faisons partie de tout ce grand, de tout ce grand mouvement, de ce grand mystère. Et dans l'infiniment petit, mais là, mais vraiment dans l'infiniment petit, dans la mesure de la durée, se trouveraient peut-être des solutions, des compréhensions, des possibilités d'intervention qui régleraient des maux qui sont fondamentaux et insolubles, des maladies. On comprendrait mieux, en fait. Nous approchons d'un palier, nous semble-t-il,
oui.
pour mieux savoir qui nous sommes et comment on fonctionne. Il faut toujours se rappeler que nous sommes de la partie.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas extérieurs à l'affaire.
Tout en terminant, je vous donne à chacun une durée de 15 secondes pour me dire, c'est quoi la question qui vous semble la plus mystérieuse, la plus épaisse, la plus intéressante et qui demeure sans réponse, évidemment, sur le temps. Étienne Klein à Paris.
En 15 secondes, je dirais la grande question, c'est est-ce que le temps avec l'espace est vraiment une chose particulière, ou est-ce que c'est simplement une sorte d'illusion qui émerge à partir d'un certain niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du temps à toutes les échelles de distance, ou est-ce qu'il n'y en a que au-dessus du mur de Planck, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine échelle d'espace-temps?
Serge Bouchard?
Moi, j'aurais un 15 secondes plus élémentaire, c'est combien de temps il nous reste. dans ma grande question philosophique, c'est-à-dire cette question de la finitude et de l'anéantissement, de la matière non-matière, qu'y a-t-il autour?
Merci beaucoup Serge Bouchard, donc anthropologue et animateur à la radio de Radio-Canada Montréal. Merci beaucoup Étienne Klein, physicien, philosophe, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA à Paris. Merci à vous deux. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale des Années de Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique à Montréal Alain Savoie et à Paris Charles Trahan. À la recherche musicale, Marie-Paul Beaulieu, les journalistes Gaël, Lucia Berdou, Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal de Srivastava. Au site internet, Lily Marin. Merci à nos deux invités analystes, Étienne Klein et Serge Bouchard. Vous pouvez nous joindre par téléphone de la région de Montréal, 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une édition régulière des Années-Lumière. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de reculer d'une heure vos montres au quartz et vos horloges atomiques. Au revoir.